France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, les 60 ans de carrière de Mireille Mathieu, première partie. Commencé comme un conte de fées, le parcours artistique de Mireille Mathieu, exigeant et généreux, est marqué par une conscience professionnelle et une persévérance rarement égalées. Révélée à la France entière par un concours télévisé en novembre 1965, la petite avignonnaise, âgée de 19 ans, a vu sa carrière aussitôt prise en main par Johnny Stark, impresario avisé et très efficace, qui lui a pratiquement tout appris. Sa voix prodigieuse, proche de celle d'Edith Piaf, disparue 2 ans plus tôt, l'a progressivement conduite sur les scènes du monde entier, comme une sorte d'icône de la France. Cette vision intemporelle, en forme de carte postale touristique, a su séduire des publics très divers sur les 5 continents. En 60 ans de carrière, Mireille Mathieu a donné 3500 concerts, chanté dans 12 langues, vendu 200 millions de disques, 140 millions d'albums et 60 millions de singles, ce qui la place dans le trio de tête des chanteuses francophones. Sa discographie comprend en tout 75 albums studio, en France et à l'étranger. Son répertoire de 1200 chansons fait appel aux plus grandes signatures du métier, comme celle de son ami Francis Lai, compositeur de ce titre de 2002.
C'est une chanson des rues qui raconte une histoire, celle d'un amour têtu qui ne veut rien savoir du cœur qui s'assoupit, du feu qui devient sang. De les attendre. Une chanson des rues, une chanson de plus, 4 sous d'amour que je chante pour que tu m'entendes. Une chanson d'amour, une chanson. Qui bat malgré le temps qui passe, qui se demande pourquoi tous les amours s'effacent, pourquoi le jour se lève.
Bonjour Mireille Mathieu.
Bonjour Monsieur Penet.
Je suis absolument ravi de vous recevoir parce qu'en ce moment, vous fêtez vos 60 ans de chansons. Et il y a quelques jours, vous avez fait l'Olympia, un grand retour à l'Olympia avec 3 dates du 23 au 26 octobre qui affichaient complet. Et vous avez chanté 27 chansons en 2 parties avec un orchestre de 15 musiciens tout de même et des choristes. Presque 3 heures de spectacle.
Bon, je n'ai pas vu le temps passer, mais je dois vous dire que j'avais une trouille pas possible, le trac. Et après, bon, avec le public, en plus de chanter dans cet écrin qu'est l'Olympia, c'est quelque chose de magique pour moi. Il y a 11 ans que je m'étais plus produite sur la scène de l'Olympia, et ça a été vraiment extraordinaire, un souvenir vraiment superbe.
Et alors, avant d'entrer en scène, je sais que vous avez tout un rituel, vous arrivez très longtemps à l'avance.
Alors, il faut que je vous dise, bien avant que je me produise sur scène, d'abord je vais à l'église faire une prière. Je chante, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je chante Panis Angelicus. Ça me chauffe un peu la voix, parce que dans une église, pour la voix, ça me rassure. Ça me rassure. Il y a un écho naturel. Alors, je juge bien si ma voix est bien pour moi un peu. Et ça m'éclaire, si je puis dire. Je fais ma prière et puis après, donc, je vais au théâtre. Arrivé en théâtre, je vais saluer la technique. Enfin, à l'Olympia, je fais ça à l'étranger aussi. Je salue les techniciens étrangers. Puis après, je vais dans ma loge, il y a ma maquilleuse, on commence à me maquiller. Puis mes musiciens viennent plus tard, ils se mettent en place, règlent. Et après, je vais faire mes vocalises sur la scène. Et puis après, on règle, on répète les chansons et les lumières, tout. Et puis après, je retourne dans ma loge. Si j'ai bien sûr un peu de temps, je mange une pomme. Voilà, vous savez tout. Et puis voilà.
Donc c'est frugal, mais c'est comme ça, vous êtes parfaitement concentré.
J'ai besoin de venir longtemps à l'avance pour pouvoir m'imprégner. Parce que comme je le traque, je suis très heureuse de venir 4 heures avant ou 5 heures avant. Vraiment, je suis quelqu'un plein de joie de venir chanter, tout à fait.
De bâton perdu et de noix au blanc.
le spectacle était aussi dans la salle, parce que d'abord, elle était archi-comble, et ensuite, les gens, vous avez des admirateurs, mais éperdus. C'est, entre chaque chanson, il y a au moins 5 personnes qui viennent vous apporter des bouquets, des fleurs, cadeaux.
Oui, c'est vrai, je suis très choyée. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent d'étrangers, de l'Allemagne, de la Scandinavie, enfin, toute la Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark. Il y avait des Iraniens, il y avait nos cousins québécois, il y avait beaucoup des personnes de France, de toute la France. Alors donc, j'étais comblée de joie et très émue.
Alors donc, parfois même les gens se lèvent pour certaines chansons. Et quelles sont celles, à votre avis, qui portent le plus sur le public ?
C'était difficile, c'est peut-être vous qui allez me le dire, parce que je voyais pas tout vraiment, parce que j'avais beaucoup de lumière. Là, quand je suis rentrée au début, avant de chanter, d'interpréter ma première chanson, Made in France, le public était debout. Je chantais bien sûr que le public, c'était très chaud, c'était très...
Mais est-ce que vous sentez vibrer la salle ?
Oui, oui. Enfin, ce que je ressentais sur scène, c'est important de pouvoir... exprimer ses émotions, c'est une chose pour moi primordiale, de pouvoir chanter et exprimer par sa voix ses émotions et le faire partager avec le public.
En tout cas, le public est fidèle. Il y en a qui vous suivent depuis...
C'est vrai, c'était un public
depuis le début presque.
Vous qui étiez là, vous pouvez le dire.
Ah oui, ça, je peux le confirmer. Il y avait vraiment une ferveur assez, assez incroyable. Parlons de votre tenue de scène, puisque vous privilégiez le noir avec un style parfois proche un petit peu de votre modèle qui était Edith Piaf. Hein, on sent qu'il y a une inspiration de ça. Ces robes sont dessinées par Pierre Cardin.
C'est Pierre Cardin que j'ai rencontré à mes débuts. Pierre, il m'a beaucoup habillée. J'étais vêtue Pierre Cardin à la scène comme à la ville. Et c'était quelqu'un qui était un précurseur. C'est-à-dire que ça a été un des premiers à créer son propre style, mais à parcourir le monde pour trouver des tissus. Ça a été le premier à aller en Chine, avant tous les autres couturiers. Ça a été il était souvent premier en tout. Il aimait bien avoir son propre style partout. On connaît Pierre Cardin dans le monde entier.
Alors, il y a aussi Christian Lacroix qui vous a lié.
Oh, j'adorais Christian Lacroix, qui lui est un Arlésien. Et il avait sa touche arlésienne, grand couturier aussi. Mon premier couturier était un Arlésien, c'était Louis Ferraud aussi.
Ah oui.
Ça a été mon premier couturier. Après, j'ai eu Guy Laroche, Christian Lacroix. J'ai eu un peu courage.
Alors, est-ce qu'on peut dire que, en plus d'être une ambassadrice de la chanson à travers le monde, vous étiez une ambassadrice, vous êtes encore une ambassadrice de la mode ? De la haute couture française.
Je ne sais pas. J'étais très heureuse d'être habillée par tous ces couturiers qui m'habillaient aussi pour les émissions de télévision quand je me présentais en télévision où je faisais les shows avec Marie-Thie et Gilbert Carpentier.
Les fameux, oui.
On créait des vêtements. Enfin, quand j'interprétais des chansons toute seule, autrement, évidemment, il y avait une costumière pour les tableaux, parce que Marie-Thie Gilbert Carpentier était très férue de comédie musicale américaine, donc on faisait des tableaux, il y avait une costumière pour ça.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Je me sens vivre et je sais mes joies ne s'achètent pas. Quand tombe la pluie, je chante la pluie et le soleil vient déjà. Je ne m'ennuie jamais, j'ai le cœur au chaud. J'ai mon petit secret qui tient en trois mots. Vive les chansons, vive le showbiz, vive les gens qui chantent avec moi. Vive les danseurs, les magiciens qui éclairent le décor de la feu de joie. Quand le rideau se soulève, les problèmes sont dehors. Vive le tempo, vive le tango, vive la valse, vive le fox de bain. Qui claque des doigts.
De 1974 à 84, Mireille Mathieu a régulièrement participé au célèbre show télévisé produit par Marie-Thie et Gilbert Carpentier, top A pour l'ORTF, puis numéro 1 sur TF1, avec des chansons et des duos inédits. Ces émissions ont donné lieu à de nombreuses adaptations en français, signées Eddie Marnay, de succès tirés de comédies musicales américaines. C'était le cas par exemple en 1983 avec I Got Rhythm de George Gershwin. Mariti Carpentier pourra témoigner en 2001 sur France Inter en compagnie de Christine Lamazière de ses nombreuses participations.
Mireille Mathieu a été hyper célèbre et elle avait, oui, Johnny Starr qui s'occupait de Mireille Mathieu la dirigeait remarquablement. Oui. Il s'arrangeait toujours pour faire venir des vedettes qui ne venaient pas ailleurs, des vedettes américaines et autres, comme par exemple le héros de Dallas ou comme par exemple Gene Kelly ou Dionne Warwick et j'en passe. Et Mireille faisait des duos, il faisait des trios, il apprenait des tas de choses avec eux et elle était toujours partante. C'était une fille qui travaillait comme une folle pour que tout soit parfait et les gens y étaient sensibles. En plus, elle avait une jolie petite tête, elle était mignonne comme tout et les gens l'adoraient.
Ah ouais, moi, quand j'étais môme, je regardais vos émissions et je me souviens très bien des duos. C'est marrant, ça m'a beaucoup marqué. Je crois que ça a marqué toute une génération.
Oui, parce qu'on ne les retrouvait nulle part ailleurs à cette époque-là. Vous voyez, les artistes venaient chanter leurs chansons un peu partout. Leur sortie de disque, ça faisait qu'ils faisaient la tournée de tous les producteurs. Mais nous, en plus, on offrait des choses inédites qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Et c'était, je crois, une grande cause de notre succès.
Mireille Mathieu s'est donc livrée le temps d'une émission télévisée à de nombreux duos très amusants. En voici un florilège avec successivement Claude François, Thierry Leluron, Jacques Chazot, Enrico Macias, Julio Iglesias, Placido Domingo, Paul Anka, Dean Martin et Alain Delon.
Je sors de la chambre, comme d'habitude. Mon café, je suis en retard comme d'habitude.
Un désir, désir désirable.
Je suis malheureuse d'avoir si peu de mots à t'offrir un cadeau.
Ça dure, ça dure. Il faut au moins 3 heures. Je n'en peux plus.
Mine de rien, je suis en train d'emballer. Ouais, j'emballe. J'emballe au sec.
Je ne veux que ton bonheur.
Et moi aussi.
Je te donne mon cœur.
Dès aujourd'hui.
Nous avons tous les deux bien de la chance dans la vie.
Y a veces cuando llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar.
La tendresse,
el amor
to realize love, a song is being played.
The way we feel from day to day,
the warm and gentle things we say
when we're together.
Give me land, lots of land under starry skies above.
Don't pass me in.
Je suis femme, je suis charmée par ta voix.
Don't face me.
Dans la colle, tu penses, c'est grâce à lui que je suis presque en avance.
Alors chérie, dis merci en taxi.
Et n'oublie pas aussi
de payer le taxi.
À présent, j'aimerais, Mireille Mathieu, que vous m'expliquiez comment vous composez votre programme pour un récital comme celui que vous nous avez offert à l'Olympia.
Alors, tout d'abord, je dois vous dire que je suis une personne extrêmement disciplinée. Je ne conçois pas ce métier sans une discipline, non seulement pour moi, mais pour ma voix, avant tout. Ça consiste pour moi à avoir tant d'heures de sommeil quand je peux, à faire mes vocalises, à chauffer ma voix tous les jours. Sauf, je ne peux pas le faire quand je voyage. Autrement, c'est tous les jours. Je fais ma voix et puis travailler mes chansons. si je dois travailler toute la journée, parce que je n'ai pas de prompteur. Et je suis libre. Ce qui est important pour moi, oui, alors, vraiment, d'être libre, de ne pas avoir cette contrainte de regarder. Le regard est le reflet de l'âme. C'est-à-dire que si je chante pour celui qui est devant, mais celui qui est au fond, il me voit. Le regard de quelqu'un qui est en prompteur n'est pas le même.
Ça, c'est sûr.
Il baisse les yeux. Moi, non. J'ouvre mes yeux et je chante et j'ouvre mon cœur. Je ne peux pas chanter, avoir ça et d'avoir aussi dans les oreilles.
Ça veut dire que vous n'avez pas de retour dans les oreilles?
Non, je l'ai devant.
Voilà, les retours, c'est sur la
scène. Devant. J'ai besoin d'avoir ça. Je ne peux pas dans les oreilles. Je peux ouvrir mon cœur complètement, ne pas trop parler non plus quand je me produis sur scène. Ça, c'est important. Parfois, je parle un peu trop. Je devrais faire attention. Mais avant tout, c'est chauffer ma voix, vraiment écouter ce que je fais. Quand je travaille, par exemple, chez moi, j'ai mon chef d'orchestre qui vient. On travaille 2-3 heures, on écoute ce que je viens de faire, ce que j'ai fait. Je considère aussi ma vie un peu comme un sportif. C'est-à-dire quelqu'un qui va courir les 4000 mètres, il ne va pas aller immédiatement à fond. Il faut aller petit à petit pour pouvoir se chauffer et pour pouvoir être bien à l'arrivée.
D'accord, c'est-à-dire que les chansons qui demandent le plus d'effort vocal, vous les gardez
Non, parce que l'hymne à l'amour demande quand même... Ouais. J'ai chauffé ma voix en premier, Made in France. Après, je chante La Paloma, qui est une chanson qui me permet que ma voix soit dans les médiums, arrive bien. Et après, donc, je chauffe, parce que je chante la chanson C'est l'amour en robe noire. Là aussi, c'est quand même une chanson, aussi il y a de la voix pour arriver à l'hymne à l'amour, qui commande une intensité non seulement d'émotion et vocale.
L'hymne à l'amour, écrit et créé par Édith Piaf en 1949, arrive en fin de première partie du récital actuel de Mireille Mathieu.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Que m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel.
Pour accompagner cette tournée, Mireille Mathieu, vous nous offrez, comme on dit maintenant, un best-of de 3 CD intitulé Mon Credo, qui donc vient de sortir, distribué par Sony Music et produit par Abilene Disc. Et donc, dans ce coffret, donc il y a tous vos grands succès, évidemment, et puis 15 titres.
Il y a des raretés, il y a des raretés.
15 titres inédits.
Il y a des raretés, puis il y a des chansons nouvelles, comme La Voix de Dieu, qui est une chanson allemande. En allemand, ça s'intitule « Gott in Himmel ». Et donc, c'est la voix de Dieu. C'est Claude Lemel qui a écrit le texte. Et une autre chanson aussi, « Il faut croire », qui est allemande aussi, qui s'intitule en langue allemande « Ich glaube ». « Il faut croire ». Et puis des raretés, « La Paloma » dans différentes langues.
Et vous avez participé au choix des chansons ?
Ah oui, et j'écoute après. C'est très important de tout écouter, finalement, comment est fait le mastering, comment c'est fait. Ah oui, j'écoute tout. Alors oui. Ah non, je vais jusqu'au bout. Je suis, quand je fais une chose, je vais aller jusqu'au bout.
Mais c'est bien, c'est très, très professionnel et c'est, ça vous ressemble, Mireille Mathieu. Alors, vous avez évoqué cette chanson sur Dieu et j'avais envie de vous questionner un petit peu sur votre rapport à la religion parce que c'est très important chez vous.
Oui.
J'ai l'impression que vous êtes entièrement consacré à votre métier.
Tout à fait.
D'ailleurs, c'est le titre d'un documentaire qui a été diffusé en 2021 sur Arte, Chanter et rien d'autre.
Singen, oui. Oui, chanter, rien que chanter, oui. Alors, pour la religion, j'ai été élevée par mes parents, toute petite. J'étais baptisée, j'allais au catéchisme. Je chantais d'abord à l'école, à l'église, et puis j'ai fait ma communion. Et bon, c'est une chose qu'on a en soi, la religion. Je respecte toutes les religions par mon éducation et par l'école. J'allais dans une école laïque qui était formidable parce qu'on avait, on saluait notre maîtresse par politesse, on chantait la Marseillaise, et on avait 5 minutes de leçons morales. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien, parce qu'on nous expliquait à respecter les personnes qui ne sont pas de la même couleur de peau que vous. Chaque jour, on avait des leçons, et c'était très bien. Et la religion, par exemple, j'explique que, avant d'aller au théâtre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais à l'église, quel que soit le pays au monde. En mars dernier, j'étais en Turquie. Le producteur m'a trouvé une église, une toute petite, mais toute petite, du moment qu'il y a une image pieuse, une croix. Je chante Panis Angelicus.
Oui.
Et ça a été très bien.
Panis Angelicus. Oh.
la croix que vous portez autour du cou, oui. Johnny Hallyday avait la même chose d'ailleurs. Il avait un
crucifix. Ça, je ne sais pas.
Si, si, mais je vous
ça,
dis, il avait pas, aussi oui. un croix, comme ça, il portait une croix autour du cou.
Vous trouvez ça trop ostentatoire, non, pas
d'abord, du tout. D'abord, je n'ai pas d'avis à donner. Et je trouve que ça vous correspond bien. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous exprimez votre piété, votre foi. Et donc, est-ce que c'est important pour vous de croire de cette manière pour, est-ce que ça vous donne de la force, par exemple?
Oui, personnellement, oui. Ça me donne une force. Ça me, je pense que Dieu m'aide énormément. Dieu m'a donné cette voix. Mes parents, évidemment, mon papa et ma maman. Mon papa avait une voix de ténor. Et le bon Dieu m'a donné, je le remercie, cette voix. Et voilà, je prie pour qu'il m'aide. Quand j'ai perdu ma maman, j'allais tous les jours à l'église. Et ça a été quelque chose d'important pour moi.
France Musique, tour de chant, Martin Penet.
Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange. D'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. Maman, c'est toi la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu m'étonneras. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car ton d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge la petite enfant sage des jours heureux. Plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi,
revenir un petit peu à ce moment important de votre vie, qui est celui de la découverte de la musique grâce à votre père, donc ténor amateur, alors qu'il était...
Oui, bien sûr, mon papa était tailleur de pierre. Mais mon papa chantait tout le temps à la maison, même quand il sciait les grosses pierres pour des pierres tombales, il chantait. Il avait moins de mémoire. C'est ma maman qui avait une mémoire prodigieuse. Alors, elle soufflait quelques mois mon papa, et il a interprété bien sûr que des chansons d'opéra. Et nous, on l'écoutait, voilà.
Et vous avez le souvenir de certains airs, de certains compositeurs qui vous ont marqué à cette époque-là?
Carmen, la Traviata, en fait, tous les classiques.
D'accord. Et alors, votre découverte de la chanson proprement dite, comment ça s'est fait?
À la radio, j'écoutais les chansons, dont Madame Piaf, évidemment. On écoutait toutes les musiques, mais surtout à la radio, les musiques actuelles.
Bon, Edith Piaf, évidemment, on va y revenir. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres noms que vous pouvez me citer qui vous ont marqué dans votre enfance?
Noël, c'était Tino Rossi que j'ai eu la chance de connaître. Il y a plein de chanteurs. Après, Dalida, Charles Aznavour.
Mireille Mathieu aura le plaisir, en 1981, d'enregistrer un duo avec une idole de son enfance, Charles Aznavour.
L'espace d'un baiser, sans rester sourd à tout, mais n'en rien changer.
Donc au début, la chanson, c'était une attirance, mais est-ce que vous saviez, je ne sais pas, à l'âge de 10 ans,
C'était un rêve. Ce n'était pas une réalité. J'allais à l'école, mais j'ai passé deux fois mon certificat d'études. On habitait dans des baraquements en fibre au ciment, dans des conditions quand même difficiles. On n'avait pas de douche, on faisait chauffer de l'eau sur le poêle.
Bah surtout que vous étiez très nombreux dans votre famille.
On était 14 enfants, enfin 14 un peu plus tard, mais quand on habitait des baraquements en fibre au ciment, on devait être 6 ou 8 enfants, 9 enfants. Donc c'était assez exigu. Mais bon, il y avait cette joie qu'on chantait toujours. Il fallait, bon, mais c'est quand même, c'était difficile, que ce soit pour maman.
C'était le quartier,
la cité des Malpémiers.
Donc aux environs d'Avignon.
Oui, à Avignon. Et après, plus tard, ça a été la Croix des Oiseaux. Alors c'était pour moi un palace. Pour moi, c'était un palace parce qu'il y avait une douche. Et vous savez, c'est quand on n'a pas de douche. Mais j'ai eu la chance d'avoir une directrice d'école, Madame Julien, qui avait compris. Elle a dit, écoutez, les enfants qui n'ont pas de douche, venez avec votre gant de toilette et votre savon de Marseille, vous douchez à l'école. Et ça a été formidable. Voilà. Si j'ai réussi mon certificat d'études, c'était pour Madame Julien. Mais j'étais nulle. En plus, je suis dyslexique. Je confondais ma droite et ma gauche, pour ceux qui nous écoutent. Et alors, on me faisait écrire de la main droite. Alors, j'écoutais pas. J'essayais de bien écrire. Enfin, j'étais nulle. Et c'est ma maman qui est allée voir Madame Julien, disant, Mireille, elle sait rien faire. Alors, moi, j'étais derrière. Je me cachais derrière les grandes. On me voyait pas. Hein, j'étais petite. Alors, elle dit, Mireille, dorénavant, tu te mettras devant. Alors, je me suis dit, bon. Chanter, c'était bien, parce qu'on apprenait des chants à l'école. Mais j'aimais bien l'histoire de France. Mais les calculs, tout ça, c'était pas. Ou les conjugaisons. Heureusement qu'il y avait le bled, le livre, le bled pour apprendre.
On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur, on faisait chanter le monde. Et je crois bien que c'est vrai. Car dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chante avec moi.
travaillant, en s'amusant, et quelquefois même en dormant, tous les enfants chantent avec moi. Je les entends reprendre en chœur, et j'ai un petit coup au cœur quand les enfants font la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. La 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 la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. Si je fredonne cette mélodie en fa, en sol ou même en mi, tous les enfants font la la la. Sous le grand soleil du midi ou même les pieds dans la pluie, tous les j'ai le cœur tout chaviré, j'étais comme et j'aimais ça. Mais la musique me poursuit, et aujourd'hui quand je chante, même les grands chantent avec moi.
Est-ce qu'on peut parler d'une vocation pour la chanson déjà quand vous étiez petite?
Oui, c'était un rêve et je ne pouvais pas savoir qu'il allait devenir réalité.
Bien, vous passiez des concours amateurs des...
Alors, je dois vous dire que j'avais vu à la télévision l'émission donc, du Jeu de la Chance. Mmh. Et la mairie d'Avignon, entre-temps, avait organisé dans les quartiers des concours de chant. Donc, je l'ai fait donc, la première fois, la Croix des Oiseaux, ce qui était mon quartier. C'était des HLM de 10 étages. Mmh. Et la première fois, je dois vous dire, j'étais très mauvaise. La deuxième fois, j'étais mieux, j'avais compris la leçon. Et la troisième fois, j'ai gagné. Voilà, donc j'avais compris. C'était dans tous les quartiers d'Avignon. Et la finale était au Palais des Papes. Et donc, la troisième fois, j'ai gagné. C'est la mairie d'Avignon qui m'a payé mon billet de train. Et moi, j'avais jamais pris le train de ma vie. 8 heures de train. Je suis arrivée donc dans la gare de Lyon. Je ne savais même pas où aller. Bon, je suis allée me présenter d'abord à la maison de la radio, là où nous faisons l'interview.
Le studio, ici même. Le studio 102, parce qu'à l'époque, c'était l'ORTF qui avait et la radio et la télévision dans le même bâtiment.
Très beau souvenir. Donc, je suis allée me présenter. Il y avait Nanou Tadei. Et on m'a dit, écoutez, mademoiselle, on vous rappellera. Et donc, je suis retournée en Avignon travailler. Moi, je travaillais dans une usine d'enveloppes. Je travaillais à l'âge de 14 ans avec ma sœur Mathilde, qui est mon manager maintenant, et ma sœur. On se levait avec ma sœur 4 heures du matin, enfin, de même avant 3 heures. On commençait à 5 heures du matin, 1 heure de l'après-midi. Et le lendemain, 1 heure, 8 heures du soir. Mais on descendait avec un balai parce que c'était dangereux. Très tôt le matin, à prendre nos bicyclettes dans les caves. On descendait avec le balai, on prenait nos bicyclettes et on partait travailler. Et entre-temps, mon usine a fait faillite. La suite, c'était un rêve. En beau jour, on m'a appelé pour venir me présenter au Jeu de la Chance. Je me suis présentée et j'ai gagné. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas si nos amis qui nous écoutent se souviennent. C'était donc 5 chanteurs amateurs dont je faisais partie. Mmh. Et le public appelait le dimanche en disant « on souhaite ». Que telle personne puisse revenir se présenter, ce qui a été mon cas. J'ai gagné 5-6 fois. Et voilà, j'ai chanté la première fois Jézabel, une chanson de Charles Aznavour. Puis après, la deuxième fois, j'ai rencontré mon manager, Johnny Stark, qui m'a dit « Mademoiselle, je voulais que je m'occupe de vous ». Je lui ai dit « Oui, monsieur, oui ». Mais il m'a dit « Mademoiselle, il faut que je vous dise, ça va être très dur ». Je pensais que c'était très dur, mais pas à ce point-là. Et après, comme j'étais mineure, il a dû rencontrer mes parents. Nous sommes descendus en Avignon et puis voilà.
«
il y a 20 ans, c'était sur un écran noir et blanc. Je chantais en priant tout bas, et vous étiez là devant moi. Le jour où je suis née.
Dans cette chanson inédite de 1985, signée Didier Barbelivien, Mireille Mathieu évoque ses tout débuts à la télévision le 21 novembre 1965 dans le concours Le Jeu de la Chance, séquence de l'émission publique de divertissement de Raymond Marcillac, Télédimanche. Plébiscitée par les téléspectateurs, au même titre que Georgette Lemaire, Mireille y reviendra 5 semaines de suite en interprétant diverses chansons du répertoire d'Édith Piaf. Ces séquences historiques, réalisées en direct, n'ont malheureusement pas été archivées. C'est pourquoi, 7 mois plus tard, alors que Mireille Mathieu a connu une ascension prodigieuse, le présentateur Roger Lanzac a tenu à reconstituer pour Télédimanche la toute première apparition télévisée de la chanteuse.
Écoute Mireille, est-ce que tu veux qu'on évoque des souvenirs?
Oui.
Hein, j'ai mis le même costume, tu vois, que j'avais mis pour te recevoir ce jour-là. Oui. Et nous allons faire exactement comme si c'était la première fois.
Oui.
Tu veux bien?
Oui.
Alors, tu vas aller en coulisses, là?
Oui.
Voilà. Moi, je vais me mettre ici, et je vais dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maintenant, notre quatrième candidate, c'est une charmante demoiselle qui arrive d'Avignon, elle s'appelle Mireille Mathieu. Mademoiselle, voulez-vous approcher, s'il vous plaît? À l'époque, tu vois, nos spectateurs ne jouent pas le jeu. Tu as été beaucoup moins applaudi à cette époque-là, à l'arrivée. Tu l'as été beaucoup à la sortie. Mireille Mathieu, maintenant, je te vous vois. Mademoiselle Mireille Mathieu, vous arrivez d'Avignon.
Oui, d'Avignon.
Vous êtes avignonnaise, je crois.
Oui, je suis avignonnaise.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mireille Mathieu?
Mais je m'occupe de mes frères.
Vous vous occupez de vos frères et de vos soeurs? Je crois que vous en avez beaucoup.
Oui, on est 13.
13 à la maison. Et vous voyez que ce 13-là, eh bien, c'est un bon chiffre. Ma chère Mireille Mathieu, j'espère que le 13 vous portera bonheur et que vous ferez une très grande carrière.
Merci.
Je crois qu'elle est pas mal entamée. Voilà.
Prise en main par Johnny Stark, Mireille va connaître en quelques mois une incroyable ascension sur scène et dans les médias, y compris à l'étranger, comme nous le verrons dans le prochain épisode. Mireille Mathieu fête cette année ses 60 ans de carrière avec une présence et une voix intactes. Après 3 dates à l'Olympia à guichet fermé, cet anniversaire se poursuit par une tournée en France, Belgique et Suisse qui s'achèvera en beauté en Avignon dans la nouvelle salle Confluence Spectacle début décembre. Toutes les dates sont sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. Tour de chant, une émission de Martin Penney avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Mathieu Leroux au mixage, Noé Mignard à la réalisation. Merci à Mylène Touchet pour les archives de l'INA. France Musique.